VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram au Cameroun. 11 personnes sont mortes lors d'un attentat suicide dans la nuit de mercredi à jeudi à Diakana, localité camerounaise de l'extrême nord frontalière du Nigeria. 10 Camerounais, pour la plupart des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer les combattants de Boko Haram, plus le kamikaze. On compte également 4 blessés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur de la région, Midji Yawa Bakari, en précisant que les blessés avaient été évacués sur 2 hôpitaux. Ces dernières semaines, aucun attentat suicide n'avait été signalé dans cette zone frontalière de la zone d'influence de Boko Haram au Nigeria voisin. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, le Kenya, déjà meurtri par plusieurs attaques d'envergure des islamistes somaliens Shebab, note la présence croissante du groupe État islamique en Afrique de l'Est, ce qui attise les craintes d'attentats par des Kenyans rentrés au pays après avoir été combattre dans le djihad. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
Il y a maintenant une menace réelle de la part du groupe État islamique pour le Kenya et le danger va continuer de croître, estime Rachid Abdi, analyste de l'International Crisis Group basé à Nairobi. Les renseignements kenyans estiment à une centaine le nombre de Kenyans ayant rejoint les rangs du groupe État islamique en Libye et en Syrie, avec la perspective de voir certaines de ces recrues rentrer avec la formation nécessaire pour commettre des attentats meurtriers. Le Kenya a déjà eu son lot d'attentats meurtriers contre des cibles nationales ou internationales. Al-Qaïda avait attaqué l'ambassade américaine à Nairobi en 1998, tandis que les Shebab affiliés à Al-Qaïda s'en sont pris au centre commercial Westgate en 2013 et à l'université de Garissa en 2015. De nombreux experts ont tempéré la suggestion d'une attaque imminente du groupe État islamique au Kenya, mais estiment que la menace d'une radicalisation alimentée par les frustrations d'une jeunesse désœuvrée est réelle.
En RDC, le président Joseph Kabila confirme que les élections auront lieu et il a appelé à la convocation rapide du dialogue. Dans son traditionnel discours à la nation à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, M. Kabila a souligné que rien ne pourra plus arrêter le train des futures élections. Il a lancé un appel au facilitateur Edem Kodjo pour l'ouverture rapide du dialogue politique dans le pays. Un extrait de sa déclaration avec Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Rien ne pourra arrêter le train de futures élections. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à notre peuple, comme je l'avais fait en 2005 et en 2011, de participer massivement aux opérations proprement dites d'enrôlement des électeurs qui débutent dans quelques semaines en vue de l'établissement des listes électorales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du financement du dit processus.
Le président Joseph Kabila de la RDC. Suite aux récentes violences en Centrafrique, de nouveaux réfugiés centrafricains ont été enregistrés ces derniers jours par le HCR et ses partenaires dans des villages du sud du Tchad, proche de la frontière de la RCA. Ces réfugiés ont fui l'insécurité qui prévaut dans la sous-préfecture centrafricaine de Ngaoundaye, de l'autre côté de la frontière. Une situation qui constitue une urgence pour la représentation du HCR au Tchad. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
Ici, nous sommes dans un village mini situé dans la région des Monts de l'Âme, à environ 1,5 km de la frontière Tchad-RCA. Et ce sont les salles de classe des bâtiments d'un établissement scolaire qui servent de dortoir et constituent en même temps un site de pré-enregistrement des nouveaux réfugiés centrafricains. Pour une population estimée à 5000 personnes pour 1550 ménages, l'on note plus de 300 enfants dont l'âge varie entre 0 à 17 ans, non accompagnés. Ce chiffre pourrait augmenter dans les jours à venir compte tenu de la situation sécuritaire précaire en République centrafricaine. Selon l'OASR, ces réfugiés seront délocalisés sur un site déjà identifié par les autorités locales conformément à la Convention de l'Union africaine. Quelques réfugiés interrogés expliquent leur mésaventure.
Les Seleka, ils ont écrit de poser la gendarmerie nationale de Ngaoundaï. Ils vont venir occuper la partie de Ngaoundaï jusqu'à Banque. Donc tout le monde a eu peur parce que tu ne peux pas voir la mort venir et puis tu restes là.
On est en train de travailler au sein et puis seulement les rebelles qui arrivent, nous ne connaissons pas. J'ai des enfants. Moi, avec ma femme, tout, on est arrivé ici.
Moi, je suis venue avec l'enfant de mon grand frère. Lui, il est parti au champ. C'est ça que j'ai ramené les enfants ici. Mon grand frère, il est parti à Cameroun.
L'administrateur national de protection du SR du mauvais comme Constant explique le mécanisme d'enregistrement de ces nouveaux réfugiés.
Nous avons les listes remises par les autorités et on oriente les familles qui viennent entièrement. Parce qu'il faut noter que nous avons également des enfants non accompagnés. Donc, on les oriente par famille devant les différents postes pour les interviews. Et maintenant, à l'issue des interviews, on les enregistre dans les tablettes. Si on constate qu'il y a des enfants à risque, nous les orientons maintenant à la section protection de l'enfance. Et donc, à la protection de l'enfance, on procède aux évaluations. S'il y a des enfants qui traînent éventuellement les cas de paludisme, il y a le partenaire CCC qui s'occupe donc de la prise en charge médicale. Et il y a des cas un peu sérieux qu'on réfère aussi à l'état de district de Maïbokoum.
Pour le chef de la sous-délégation du SR de Gorée, Billy Michel, cette urgence est tout à fait inattendue, car elle arrive au moment où son organisation est en train de préparer le rapatriement volontaire des anciens réfugiés. Toutefois, il parle des défis à relever dans l'immédiat pour ce nouveau groupe.
Nous sommes en saison pluvieuse. On souhaiterait que les gens restent longtemps dans des abris, dans les écoles, ainsi de suite. Ce n'est pas favorable pour l'hygiène. Tout de suite, nos équipes vont se mettre au travail pour construire les abris d'urgence, les latrines d'urgence, mettre des points d'eau qu'il faut, renforcer le système scolaire qu'il y a pour que les réfugiés vivent comme dans les villages.
André Kotuma Djingar dans la zone méridionale du pays pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Libéria, la mission des Nations Unies cède officiellement ce jeudi les compétences en matière de sécurité qu'elle exerçait aux forces libériennes. Ce transfert d'autorité vient boucler un processus entamé en 2015 dans ce pays aux frontières poreuses, peuplé de près de 4,5 millions d'habitants. Anne Albertson.
La MINUL, la mission de l'ONU au Libéria, dont les effectifs ont culminé à 15 000 hommes, a été chargée d'assurer la sécurité et la protection de la population à son déploiement en 2003, après 14 ans de guerre civile. Le conflit a fait 250 000 morts, poussé des milliers d'habitants à fuir, ruiné l'économie et déstructuré les forces de défense et de sécurité du pays, alors un mélange hétéroclite de loyalistes, ex-rebelles et miliciens. Après une remise à plat, de nouveaux policiers et militaires ont été formés, notamment par des sociétés privées financées par les États-Unis et par l'ONU. Mais la MINUL a continué de sécuriser les infrastructures publiques de base, notamment les ports et les aéroports, les transferts de fonds et les prisons. Ce passage de relais réjouit certains, surtout dans les milieux officiels. Certains habitants, cependant, se disent peu rassurés par ce transfert de compétences et racontent d'amères expériences de rackets, corruption ou abus de pouvoir par des porteurs d'uniformes, eux-mêmes mal payés et sous-équipés, avec la palme de la mauvaise réputation pour les policiers.
Fin de la visite du président américain Barack Obama à Ottawa, au Canada, où il a eu jeudi un sommet avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président du Mexique Enrique Peña Nieto. L'accord de libre-échange, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la lutte contre le changement climatique ont dominé les débats. À l'issue du sommet, les participants ont tenu une conférence de presse conjointe. Que peut-on en retenir ? Éric Manirakiza a joint à Ottawa Chika Kanyori, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Ils ont commencé par dire qu'il faut renforcer, après le problème de l'Angleterre, qu'il faut renforcer le libre-échange pour dire que ce n'est pas le libre-échange ou l'ouverture des frontières qui cause des problèmes, mais c'est surtout la façon de l'expliquer aux gens. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs directement au président du Mexique de citer nommément Trump, quoi. Tu crois qu'il peut y avoir un monde avec des murs? Et il a été très acclamé. Ils ont aussi parlé de l'environnement. C'est ce qu'ils disent qu'aussi, il faut que ça soit une économie ouverte, mais en respectant les lois de l'environnement, et qu'il faut faire tout pour que dans les années à venir, on puisse aussi avoir l'énergie propre, au moins jusqu'à moitié quoi, de l'énergie qu'on peut utiliser dans tous ces pays.
Chika Kanuri, rédacteur en chef du magazine Transatlantique à Ottawa. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.